En sol majeur vous propose cette rediffusion.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Notre invitée en sol majeur s'appelle Soko Faye. 6 ans. Elle n'a que 6 ans lorsque le 17 avril 1975, les Khmers Rouges entrent dans Phnom Penh pour diffuser jusqu'en 1979 la philosophie totalitaire du Kampuchea démocratique. Soko Faye et sa famille arrivent à fuir ce Cambodge devenu un gigantesque camp de concentration. Alors que les génocidaires n'aiment pas laisser de traces, surtout pas d'images, il est intéressant de voir que cette histoire de génocide cambodgien est devenue matière à penser pour celle qui s'avance désormais dans le monde en tant qu'historienne et théoricienne de l'art. Quelle image le génocide cambodgien a laissé dans le miroir et la mémoire du peuple khmer et quelle est la spécificité de ce génocide cambodgien par rapport au génocide arménien, à la Shoah ou au génocide rwandais? Ce sont quelques-unes des questions qui parcourent ce livre collectif « Cambodge, le génocide effacé » qu'elle co-dirige avec Pierre Bayard. Bienvenue Soko Faye.
Bonjour, merci.
Votre histoire et cette histoire que l'on va raconter peut commencer, je crois, en musique, car vous aimez bien les bardes.
Oui.
En particulier Khong Ney, qui est un barde cambodgien né en 1946. Autant dire qu'il a croisé les Khmers Rouges.
Oui, il est né en 46 et à 4 ans, il a eu la variole, donc il est aveugle. Il a traversé les années Khmers Rouges et c'est son frère qui va le guider. Et donc il va survivre en chantant en fait.
Et qu'est-ce qu'il raconte dans ce morceau qu'on va partager ensemble en sol majeur, Soko?
Donc qu'on aille dans son improvisation en faire la comparaison entre la jeunesse d'avant et la jeunesse d'aujourd'hui. Donc il raconte notamment que dans l'ancien temps les jeunes étaient droits, enfin voilà, donc c'est aussi une manière d'analyser la société d'aujourd'hui, ce qui a manqué et voilà. Donc c'est les sonorités de mon enfance. Si j'avais choisi ce morceau, c'est parce que dans mon enfance, j'étais habituée dans les villages d'avoir des bardes qui viennent, qui sont un peu chez nous en Occident les troubadours du Moyen-Âge. Les bardes, ce sont des artistes itinérants qui viennent se poser de village en village, raconter l'histoire de Bouddha ou du Ramayana, ou alors de partager leur point de vue de la société, du politique. Et vraiment, c'est vraiment les sonorités traditionnelles de mon enfance.
Qu'est-ce que c'est que le Ramayana?
Le Ramayana, c'est l'histoire. Enfin, nous, on dit Rimke en cambodgien, qui raconte l'histoire de Rama et de Sita. Donc, c'est une grande épopée. Célèbre, puisque l'héritage du Cambodge vient de l'Inde.
Khyom som luk yok khmeing jamnan ai lou nang jamnan cha va khos phlai khnie yang maich kla sandan luk nang chi ti metrai luk ma chamriep chun bong phon tang os ស្ត្រីបរោះកំមកំឡោះឲ្យជ្រាបទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្មេងចំនួនដើមនិងក្មេងសម័យអាលោកប្រុសស្រីខុសគ្នាយ៉ាងណាក្មេងពីចំនួនដើមគ្នាល្ងងណាស់បណ្ណេដាយចិត្តចាស់លើកដៃសាពះអោនសង្ទើដៃអើយក្មេងឥឡូវអីចេះពិតបណ្ណេដាយចិត្តចាស់ចិត្តវាចំប៉ះចាស់អីចូលព្រៃតែជាង20ពាំងកដាលហើយក្មេងពីដើមល្ងងក៏ប៉ុន្តែចិត្តត្រង់នឹងគ្នាណាស់បើមានភ្លៀងថ្មីបបួលគ្នាធ្វើក៏បីដឹកកបាសលេងចូលគ្នាទាំងស្រីទាំងប្រុសអត់មានអ្នកណាវាចនឹងគ្នាអីបើ
กมมกมลาเล้ามันบานเตปะกนแช่ดอยโสมลูกคันไตเฮียนตะบะดอยอ้อยตะปรีปีเนี่ยมังไงเมียนเรื่องอะละวัง
Oui, des questions en sol majeur des Khmers, de ceux qui ont le blues du Mekong et qui trouvent refuge, un peu comme notre invité Sokofai sur RFI, qui trouve refuge dans les pagodes.
Bekom, Pei Sekre, Pei Premier.
Vous vous souvenez, Sokofai, de certaines paroles de prière ou de chants que vous entendiez dans les pagodes dans votre enfance ?
Je les reconnais puisque j'étais baignée dedans très tôt, puisque mes parents en fait se sont rencontrés dans une pagode qui se trouve à Siem Reap. Et Lokta Mekwan Kaun, qui est un grand chef bonze de la province, a éduqué mon père dès l'âge de 11-12 ans jusqu'à ses 20 ans. Parce qu'à l'époque, quand on est pauvre dans la campagne, l'éducation se fait dans les monastères. Et donc ce chef bonze a accompagné dans la vie mon père de l'adolescence à l'âge adulte. Et c'est dans ce pagode qu'il a rencontré ma mère qui était orpheline, qui avait donc une mère adoptive qui s'occupait de ma mère et qui venait souvent dans la pagode. Et en hommage à ce grand chef bonze, mes parents, lors de ma naissance, puisque je suis l'aînée, ils ont demandé que ce soit lui qui donne mon prénom, et mon prénom en entier d'origine se prononce Sokwantia, et ça s'écrit Sokoantea.
Et ça veut dire
Sokwantia, ça veut dire parfum de fleurs.
Alors vous êtes né parfum de fleurs, cher Soko, en 69, à 1 kilomètre des temples d'Angkor. Je ne vais pas réussir à prononcer aussi bien le nom de votre ville.
Siem Reap.
Est-ce que vous vous souvenez de la vie là-bas avant les Khmers rouges? Est-ce que vous avez des images? Est-ce que vous avez des impressions qui sont restées?
Alors, pas de Siem Reap spécifiquement, parce qu'en fait, on a vécu dans différents lieux, parce qu'il faut savoir qu'une année après ma naissance, dès le 18 mars 70, il y a eu le putsch de Lonol, et jusqu'à la prise de pouvoir des Khmers rouges. Donc, pendant 5 ans, le Cambodge a connu la guerre civile. Et donc durant cette période, on a vécu dans différents endroits. Donc, j'ai des images de Tiongkal, qui est le village natal, le village de mon grand-père. Et donc j'ai des souvenirs de lui, notamment quand il nous emmenait dans les plantations. Une partie de ma famille sont, comme on pourrait dire, des gens de la rizière. Et donc j'étais habituée à voir des champs de pastèques, des cannes à sucre, du riz, des rizières.
Alors cette guerre civile qui oppose en fait les forces communistes aux forces gouvernementales, pour faire très simple, tout ça dans un contexte de guerre froide. Qu'est-ce qui se passe pour vos parents à ce moment-là, jusqu'à la prise du pouvoir par les Khmers rouges?
En fait, j'ai surtout été marquée par l'absence de mon père, puisque très vite, pour défendre les villages contre les Khmers rouges, et mon père me racontait que voilà, on te donne une arme, il faut que tu protèges ton village. Et donc après, petit à petit, il s'est professionnalisé, il est devenu militaire. Et donc, il partait souvent en campagne pour lutter contre les Khmers rouges, jusqu'à la prise de pouvoir, puisqu'on vivait déjà dans un camp militaire à Samraung, qui est à peut-être une quarantaine, cinquantaine de kilomètres de la frontière thaïlandaise. Et je pense que c'est ça qui nous a sauvés, puisque c'était le dernier bastion que les Khmers rouges n'ont pas encore pris, puisqu'ils sont arrivés 2-3 jours après la chute de Phnom Penh. Et nous, on a réussi à s'enfuir juste avant.
Et vous vous souvenez de la fuite?
Oui. Je pense que ça a été un moment traumatique, quelque part, puisque mon père est arrivé en pleine nuit. Il fallait tout de suite se préparer et partir. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai associé ce moment où mon monde s'écroulait, mais je me voyais en train de m'habiller et de porter une de mes robes préférées en dentelle noire. Et j'ai gardé ce souvenir que j'étais en train de regarder la couture, si je mettais à l'endroit ou à l'envers, comme si j'avais besoin de ce temps-là. pour me protéger du chaos que ça pouvait faire de s'enfuir très vite en laissant tout derrière soi, en laissant même les proches, parce que justement notre drame c'est que beaucoup de familles militaires, même dans le camp, ne croyaient pas que les Khmers Rouges viendraient assassiner, tuer, donc beaucoup sont restés, donc j'ai beaucoup de mes amis d'enfance que j'ai perdus.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous entendez le nom de Pol Pot ?
En fait, quand je suis arrivée en France, parce que j'ai eu la chance d'avoir un père qui était conscient de l'histoire avec un grand H, donc qui était Pol Pot, quelle est l'influence des Vietcong, l'influence des Chinois, que la Chine a beaucoup soutenu les Khmers Rouges. Et mon père a donné même les dates clés de l'histoire, dans les dates de naissance. Mon frère a hérité du 18 mars 1970. Ma mère a hérité du 17 avril 1975.
Qu'est-ce que ça veut dire, hériter ?
Hériter, ça veut dire qu'en fait, au moment du camp, mon père a fait plusieurs demandes de réfugiés politiques, aussi bien aux États-Unis, en France. J'ai appris même jusqu'en Autriche, en Hongrie. Et donc, pour faire les papiers, les demandes, il faut inscrire les dates de naissance. Et donc, mon père a donné des dates à mon frère le 18 mars et à ma mère le 17 avril. Donc, qui sont des dates très chargées. Je sais que c'est un peu étrange, mais en même temps, c'est pas par hasard que je fais un travail sur mon passé, d'essayer de trouver des concepts ou des mots qui rendent compte de ce passé tragique.
Nous sommes un 17 avril 1975. Les troupes de Khmer Rouge entrent dans Phnom Penh et en chassent tous ses habitants vers les campagnes. Troupes constituées de paysans et d'adolescents habillés de noir et de kalachnikov. Le Cambodge devient le Kampuchea démocratique, avec à sa tête une force mystérieuse, invisible, mais omnisciente, qu'on appelle l'ANCAR, l'organisation. L'ANCAR se lance durant 4 ans dans une purification de la société Khmer. Notre hymne national, dit le frère numéro 1 Pol Pot, n'est pas écrit par un ou deux poètes, mais par le sang de tout un peuple. Ce sang s'est transformé en haine de classe, la haine de toute une nation jusqu'à la victoire du 17 avril 1975. Cette victoire causera la mort d'environ 1 800 000 personnes, soit un quart de la population.
Génocide.
Sokofai, vous, la petite cambodgienne réfugiée en France, est devenue universitaire et maître de conférence à Paris 8. Quand vous êtes-vous intéressée pour la première fois au génocide cambodgien ?
En fait, il m'a fallu faire un long détour pour oser me confronter à mon passé. Tout d'abord par des petites touches, si je puis dire. J'ai été invitée en 2003 à l'Université d'Amsterdam pour participer à un colloque sur la mémoire et l'exil. J'avais proposé d'étudier sur l'œuvre de Sarkis, qui est un artiste d'origine arménienne, qui a vécu en Turquie, qui s'est exilé dans les années 60 en Allemagne puis en France. Et donc c'est par le biais du génocide arménien et la réflexion autour justement de l'exil, comme il aime à dire, ma mémoire et ma patrie, ou encore l'exil c'est la distanciation. Et donc j'avais retrouvé dans ses paroles et dans son œuvre des petits bouts de cheminement. Voilà. Et la deuxième grande étape, c'est la sortie du film de Ritipan, hein, ce film monumental pour la mémoire cambodgienne et pour la mémoire de l'humanité, S21, la machine de mort Khmer Rouge. Et à cette occasion, le rédacteur en chef de la revue Art Absolument, puisque j'écrivais comme critique d'art, il m'a proposé d'écrire un article là-dessus. Et j'ai pu rencontrer la première fois Riti.
Parce que jusqu'à ce film, le mot génocide cambodgien n'était pas prononçable pour vous ?
Si, ça l'est dans l'intimité. Je veux dire, avec ma famille, mon père est un intellectuel. Et donc, on avait beaucoup de conversations là-dessus. Je veux dire, le mot n'était pas interdit, mais ce qui était difficile, c'est de sortir de cet espace familial, cet espace d'intimité. Donc, il m'a fallu de longues années pour construire, si je puis dire, une légitimité de parole, pour mettre des mots là-dessus et de pouvoir prononcer le mot génocide.
Cambodge, le génocide effacé, donc c'est un magnifique et nécessaire ouvrage collectif que vous supervisez avec Pierre Bayard, Sokofai, et qui éclaire sur la structure mentale de ce génocide. Je rappellerai ce slogan, « À te garder, on ne gagne rien, à t'éliminer, on ne perd rien ». C'est un des terribles slogans de cette idéologique mer rouge qui, en 1975, veut donc inaugurer une année zéro et fonder l'homme nouveau. Sur quoi est fondée cette doctrine d'homme nouveau ?
Il y a déjà l'idée de la table rase. Pour construire un homme nouveau, il faut faire table rase du passé, c'est-à-dire on ne pouvait plus chanter de chansons d'avant, les familles doivent détruire ou cacher des photos, tout ce qui remonte à la vie d'avant, puisque l'époque avant 75 était considérée comme impure ou féodale, donc il fallait éliminer pour construire cet homme nouveau qui est d'inspiration pas du tout cambodgienne, c'est pas du tout de notre culture, puisque Pol Pot, comme on le sait, est influencé d'une part par le marxisme-léninisme et par le maoïsme. Donc cette construction de l'homme nouveau, eh bien, ils vont faire de la population plusieurs catégories. Il y a les déchus, ceux-là, on n'en parle même pas parce qu'ils sont éliminés d'office.
Les déchus sont qui ?
Les responsables politiques ou les grands propriétaires terriens, les chefs religieux. On retient seulement donc le nouveau peuple et l'ancien peuple.
Les intellectuels hein, voilà. Aussi dans les déchus.
Oui, également. En tout cas, ceux qui sont très connus. Et l'ancien peuple est constitué pour la plupart des citadins qui sont déportés et tous les paysans, les villageois pouvaient participer à la vie politique.
Alors, est-ce que dans la tête de Pol Pot, parce que là, ce que vous nous décrivez, c'est une sorte d'extermination sociale, mais est-ce qu'il y avait dans la tête de Pol Pot, avec donc ces deux références que vous rappeliez, plan stalinien d'un côté et le grand bond en avant chinois de l'autre, est-ce qu'il y avait chez lui aussi une obsession raciale ?
En tout cas, je pense à Serra, qui est un artiste franco-cambodgien, qui lui-même est métisse et qui racontait que ses frères et lui, comme d'autres enfants métissés, devaient s'exposer dans l'enceinte de l'ambassade de France, debout, sous le soleil, sous le regard de leur mère, et que le Khmer Rouge passait devant eux, regardait le visage pour savoir si la peau est très blanche ou pas. Si c'est très blanc, ils sont plus du côté occidental, peuvent partir. Si c'est trop brun, ils doivent rester et reconstruire le pays. Donc, je pense qu'il y a une idéologie raciale aussi, mais il n'y a pas que ça. C'est ça qui rend complexe. Je dirais qu'il y a des processus génocidaires. Par exemple, la stigmatisation ou l'élimination des Thiam, qui sont des musulmans cambodgiens. Donc eux, ils ont dû changer de nom, ils sont forcés de manger du porc. Enfin, il y a tout un travail de destruction des croyances, des rites. Je crois au départ, il y avait 400 000 Thiam, et après les Khmer Rouges, à peine 40% ont survécu.
Alors, vous qui avez dû passer par d'autres connaissances de génocide, le génocide arménien, la Shoah sans doute, et puis le génocide des Tutsis au Rwanda, la question évidemment qui vient rapidement, c'est est-ce qu'il y a une spécificité cambodgienne quand on parle de ce génocide ?
Je dirais comme spécificité, c'est que dans un même pays, il y a à la fois des camps de concentration et camps d'extermination à grande échelle. C'est-à-dire que c'est rare, tout un pays en entier est transformé en camp de concentration. Pour moi, S21, comme plus de 190 autres prisons, mais qui sont des centres d'extermination. C'est-à-dire c'est un pays...
C'est présenté comme un centre de détention.
Ils sont des détentions, mais... C'est pas comme une prison, parce que pour aller en prison, il faut qu'il y ait un système judiciaire. Il n'y en a pas sous les Khmer Rouges. Ceux qui sont envoyés dans ces prisons, ils sont condamnés à mort. C'est pour ça que je me permets d'employer un camp d'extermination. Alors qu'un camp de concentration, c'est ce qu'a vécu la grande majorité des Cambodgiens, notamment ce nouveau peuple, qui sont soumis à des travaux harassants, qui sont stigmatisés, qui sont éliminés. C'était même interdit de dire... quelqu'un qui a disparu. Et pour moi, le terme qui définit le génocide cambodgien commis par les Khmer Rouges, c'est le mot Kamtek. Le mot Kamtek qui veut dire non pas seulement tuer, mais détruire, réduire en poussière. C'est-à-dire qu'il ne reste rien. Et Duke lui-même, dans le film... le directeur de S21, dans le film de Ritipan, Duke, le maître des forges de l'enfer, qui est sorti en 2012, il donne lui-même la définition. Il dit qu'Amtech, c'est détruire le nom, l'image, le corps, tout.
Pourquoi ces habits noirs ? Tu mets les habits des Chinois, Saint Jean ceux des laquais rigides, de ces chasseurs d'hôtels courtois, au col cachant des coups perfides, puant leur racisme sournois. Les costumes khmers et parures réjouissent le corps et l'esprit. Tu les hais comme des souillures, mais qu'est-ce donc que ton habit chinois, stigmate des parjures ? J'avais envie de vous lire Sokofai pour en sol majeur sur RFI, ce poème de Keng Vansak, qui est un prof de lettres et de culture khmer, qui a travaillé à Phnom Penh et qui a écrit donc sur le génocide. Et c'est précisément ce qui vous intéresse, c'est-à-dire en l'absence d'images et d'archives de ce génocide, vous dites que l'art peut être une réponse.
Oui, je pense notamment à Vanat et Ritipan, qui sont des artistes engagés dans le travail de mémoire bien avant les historiens, bien avant les chercheurs, bien avant l'appareil judiciaire, les chambres extraordinaires. Et j'ai travaillé en fait sur la notion de l'archive œuvre, c'est-à-dire que par le travail plastique, je pense notamment les dessins, les peintures de Vanat, lui qui a été témoin.
Faut rappeler qui il est.
Oui, Vanat est un des 7 survivants de S21. Il doit sa survie grâce aussi à Duke, puisque Duke a repéré dans sa biographie qu'il était peintre, donc il était utilisé pour faire des portraits de Pol Pot pour la propagande. Et puis, il était tenu par une promesse avec ses compagnons,
ses co-détenus
qui ont été emmenés de la ville de Battambang à S21, que si l'un d'entre eux survivrait, il fallait que celui-là témoigne. Et donc Vanat a passé toute sa vie jusqu'à sa mort en septembre 2011 à porter ce travail de témoignage.
Et donc dans le film de Ritipan, on voit Vanat installé devant une grande toile, il est en train de la peindre, et cette toile représente une scène vécue par lui lorsqu'il était prisonnier de S21, ce centre de détention dirigé par Duke, et il peint une photo de Pol Pot sur les genoux.
À l'époque, je peignais dans cette pièce. Duke me regardait, assis dans le fauteuil ou debout derrière moi. Il regardait
Van Gogh, Picasso,
et me parlait de peintres célèbres comme Van Gogh ou Picasso. Je ne pouvais qu'écouter, je ne les connaissais pas. Quand je peignais, parfois je faisais un cheveu là. Mon geste était très doux, sans brusquerie dénotant un manque de respect. Là, il fallait du respect, des touches légères. Il fallait peindre le visage d'une couleur rose, comme une peau lisse et fine, belle comme la peau d'une jeune vierge. Alors, il était content. Il acceptait le tableau. Je sais que de nombreux peintres étaient venus travailler pour eux. Mais ils ont tous été tués.
Extrait en sol majeur de S21, la machine de mort khmer rouge de Ritipan, donc avec cette voix de Vanat, ce peintre cher à votre cœur, Sokofai. Vous qui signez un texte intitulé « Peindre l'extrême » dans votre livre collectif, vous interrogez donc sur la différence et la portée de cette différence entre le témoignage, qui est proche du réel bien sûr, et la fiction, qui elle peut nous entraîner vers l'esthétisation de l'horreur.
Oui, alors je me méfie du mot esthétisation de l'horreur. C'est justement c'est tout mon travail, c'est de marquer ce travail de décalage, puisque esthétisation de l'horreur, c'est justement la confusion entre réel et fiction, et donc qui détruirait le sens du réel. Donc j'essaye justement de m'interroger des figures de la discontinuité, les brisures, l'ellipse, le vide, qui témoignent justement qu'il y a eu une brisure d'origine, la brisure identitaire face à l'événement. Et oui, Vanat a œuvré comme témoin, au sens de superstes en latin, c'est-à-dire le témoin qui a expérimenté l'événement. Et testis, c'est-à-dire celui qui est témoin oculaire, qui peut donc faire une déposition. Et d'ailleurs, Vanat est intervenu au procès, il est venu témoigner.
Procès de Doucq.
De Doucq, voilà, il est venu témoigner. Et aussi, ce qui est aussi, il me semble, une avant-première par rapport, dans le cadre des procès, des crimes contre l'humanité, que les dessins et les peintures de Vanat sont utilisés comme objet à conviction. On voit même... j'ai vu sur des films du procès des détails de ces dessins et on voit le tampon du tribunal. Enfin, ça veut dire que là, on bascule de l'œuvre de témoignage ou de l'œuvre d'art en document judiciaire.
Est-ce que vous auriez en tête une toile de Vanat qui rende compte de ce génocide ?
Oui, de la déshumanisation, puisqu'il lui-même a vécu dans ces petites cellules où sont entassées une cinquantaine, soixantaine de personnes qui sont enchaînées et il a dessiné un cadavre à côté des vivants qui sont en train de dormir ou manger. Le dessin de Vanat témoigne qu'il y a bien une volonté de faire fusion les morts et les vivants, c'est-à-dire de laisser les cadavres à côté des vivants qui sont en train de dormir ou manger, c'est-à-dire qu'eux, ce sont des prochains cadavres.
Hélène Csikszu, qui est une des marraines de ce travail sur le génocide cambodgien, parle à propos de la peinture de Vanat, de peinture réaliste et transfigurée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ?
Transfiguratif, je pense notamment à ces peintures qui ont été faites dans le cadre des ateliers de la mémoire que j'avais organisés avec Pierre Bayard au Centre Bopana, qui était sur l'idée de Ritipan, justement de faire travailler les archives, puisque son parti pris c'était que si une archive vivante, c'est quand une archive est regardée, travaillée. Donc il m'avait dit, ce serait bien que tu puisses faire travailler les jeunes Cambodgiens sur les archives et de profiter de Vanat, de sa présence, qu'il puisse témoigner ce qu'il a vécu. Par exemple, j'ai en tête la tortue, puisque les jeunes lui demandaient tout le temps, mais comment on survit ? Qu'est-ce que ça veut dire la survivance ? Alors, il leur a dessiné une tortue qui échappe à une forêt en flammes et il essaye de parcourir alors qu'il marche lentement, etc., pour se sauver dans une mare. Mmh. Donc vraiment, la figure du survivant, c'est dans l'entre-deux, entre la vie et la mort, entre le passé et le présent, entre la lune et le soleil.
Est-ce que ces toiles de Vanat, qui ont donc servi de pièce à conviction dans le procès de Doucq à Phnom Penh, est-ce que ces toiles peuvent aider à faire le deuil pour vous ?
C'est une question compliquée. Je pense que le deuil, on n'en finit pas, mais on peut faire ce cheminement. Et j'ai été très marquée par Vanat, par sa parole, qui disait que tout ce travail de la mémoire qu'il fait, ce travail de témoignage, c'est bien sûr pour les survivants, les familles des rescapés, pour la nouvelle génération cambodgienne, mais aussi pour les morts. Pour apaiser ces âmes errantes, et pour ma part aussi, ce travail de la mémoire, je me dis, bon, c'est une manière aussi de leur donner la paix et les libérer pour qu'ils puissent un jour se réincarner.
Donc il y a bien un lien étroit entre le fait que vous soyez devenue historienne et théoricienne de l'art et ce génocide.
Oui.
Un petit peu de chant rwandais pour consoler le cœur. Samuel Kamanzi sur RFI est tout prêt à nous chanter Rafiki. Est-ce que ça, c'est un chant qui peut vous consoler, Soko Fay ?
Oui, Rafiki, qui veut dire ami. Et Samuel Kamanzi, qui est chanteur et compositeur et guitariste, a participé aux ateliers de la mémoire que Pierre Bayard et moi avons mis en place au Rwanda. Et cette chanson, j'aime particulièrement parce que c'est une chanson aussi liée à la mémoire, puisqu'elle a été écrite par son père, qui a disparu. Et donc, c'était faire le lien avec son père, à sa mémoire. Et voilà, c'est l'éloge de l'amitié et de l'humanité.
Rafiki, mupenzi wangu, unisame. Sana simama kwanza nikuelezee kwenye na kwenda ni inchi ya furaha kwenye na kwenda Fata sasa hivi kimbia mbio ujikaze ni mulima kweli lakini usirudi nyuma angalia tu mbele kule bonde maji inaja Wala sema mutu na mutu njia yake Kila mutu peke yake Tuunganishe macho yetu ni furaha Haya, haya, haya Mutu na mutu njia yake Kila mutu peke yake Tuunganishe macho yetu ni furaha
Un petit peu de mille collines sur RFI dans la voix de Samuel Kamanzi et dans les yeux pagodes de notre invité Sokofai, fille du Cambodge et de Ménilmontant, historienne et théoricienne de l'art, qu'il dit en français et parfois en khmer.
L comme langue d'amour.
Je monte la garde. Je vérifie quatre fois le cadenas. Je secoue le cadenas et la barre de fer. Je vérifie, tout va bien. Je passe à l'autre rangée. Puis je viens au milieu, ici. Cette rangée, debout, main levée. Je commence à fouiller, je tâte leurs poches, je regarde partout. Ils ne doivent pas avoir une plume pour pouvoir s'ouvrir les veines. Voilà, je voulais vous faire entendre sans doute ce terrible passage de S21, la machine de mort Khmer Rouge de Ritipan. C'est la parole d'un ancien geôlier de cette prison, devant la caméra de notre réalisateur, qui rejoue une scène de son quotidien de geôlier durant le génocide. Pour parler de cette langue khmer, qui est donc votre langue natale, votre langue maternelle, Sokofai, comment est-ce qu'elle circule en vous aujourd'hui, cette langue ?
La question de la langue est très compliquée pour moi, puisque c'est la langue de ma naissance, mais... Je dirais que s'il y avait encore des traces traumatiques de mon passé, c'est lié à la langue, c'est-à-dire c'est dans cette impossibilité de la transmettre à mes enfants. C'est comme si j'en ai voulu à la langue maternelle, la langue de ma patrie, à pas avoir réussi à nous protéger. C'est comme j'ai compris que peut-être que c'était impossible pour moi de penser la mort des miens à partir de ma langue d'origine. C'est comme s'il m'a fallu passer par une autre langue, notamment la langue française, qui est la langue qui m'a accueillie, qui m'a donné aussi les moyens, un appareil conceptuel, pour revenir sur cette tragédie et donc pouvoir mettre des mots là-dessus.
Le Khmer est présenté comme la langue de la tuerie pendant cette période Khmer rouge. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des mots Khmer que vous arrivez à prononcer et que vous aimez?
Alors, il faut dire quand même un mot que les Khmer Rouges ont transformé notre langue. la langue s'est beaucoup appauvrie, puisque justement, quand on avait organisé les ateliers de la mémoire au Rwanda, j'ai fait un ouvrage collectif, Cambodge, l'atelier de la mémoire, et j'ai voulu que tous les textes soient traduits dans les trois langues, en khmer, en français et en anglais, pour que la diaspora cambodgienne et les Cambodgiens du pays puissent avoir accès à ces textes, à ces réflexions sur les génocides. Et je me rappelle encore que j'ai donné à mon père à lire les traductions en khmer, et il disait que mais non, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des pertes de sens. Et je me souviens des rendez-vous Skype entre le traducteur cambodgien et mon père pour négocier l'un et l'autre les termes pour que la nouvelle génération et la génération d'avant puissent se comprendre.
Et donc alors, dans cette langue appauvrie qui peut-être s'enrichit à nouveau, est-ce qu'il y a un mot qui reste pour vous cher, un mot en khmer?
Oui, j'aime beaucoup le terme on et bang, qui a plusieurs significations, qui dit aussi mon aîné, mais dans une relation amoureuse, bang veut dire mon chéri, et on qui veut dire ma petite, qui signifie aussi ma chérie. Et donc j'ai mis longtemps à pouvoir retrouver ces mots.
Je vous emmène, Sokofay, dans votre village d'amour. Je crois qu'on peut l'appeler comme ça. C'est Ménilmontant, un quartier de Paris dans le 20e. Que vous évoque ce Ménilmontant des cours de récré, Sokofay?
Le plaisir que j'avais d'aller à l'école.
C'est suffisamment rare pour qu'on développe.
En fait, déjà on vivait la première année en France, donc à Ménilmontant, on vivait déjà une quinzaine dans deux pièces, donc on n'avait pas beaucoup d'espace. Donc soit c'était aller jouer dans le square à côté, soit c'était l'école. Et pour moi, j'avais qu'une hâte, c'est d'aller à l'école. D'une part parce que je voulais apprendre, je voulais tout de suite avoir des amis, donc il fallait apprendre la langue française. Voilà, donc l'école a été pour moi un lieu de liberté. Et j'étais consciente très très tôt, comme mon père me disait, que si tu veux faire ta révolutionnaire, parce que j'étais très indépendante déjà toute petite, il m'a dit il faut que tu réussisses tes études et que tu trouves ta place dans la société. Et je pense qu'il m'avait donné les clés de ma liberté de femme cambodgienne et française.
Les deux, donc.
Les deux.
Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez à nouveau à Ménilmontant, Soko?
Oui, la vie est parfois étrange. Le hasard fait que 40 ans après les séparations, après les changements, mon amoureux vit à Ménilmontant.
Amoureux français?
Amoureux français, oui.
Pas cambodgien?
Non, je pense que... voilà. Depuis toute petite, je savais que je pourrais pas tomber amoureux d'un cambodgien.
Impossible?
Impossible, c'est comme si la peur d'être engloutie par l'origine. Et voilà, et mon amoureux est français et il vit à Ménilmontant. Et donc je retraverse l'église Notre-Dame de Sainte-Croix devant l'école et il habite rue Sorbier, quasiment dans le même immeuble que ma maîtresse de CE2, qui est un très beau souvenir, nous a emmené mon frère et moi faire un goûter chez elle et elle voulait nous offrir ses jouets d'enfant. Donc j'avais le droit à choisir une poupée et mon frère a eu un garage donné par son frère. Donc, enfin, c'était un moment très important. Mes parents qui n'avaient pas les moyens, n'avaient pas beaucoup de jouets. Donc que cette maîtresse d'école, non seulement elle nous a transmis la langue française, mais en plus partagé ses cadeaux d'enfance. Donc voilà, le Ménilmontant tient une place particulière dans mon cœur.
Petite, vous souhaitiez être docteur pour soigner les blessures du corps, mais peut-être surtout les blessures de l'âme. Est-ce que vous diriez que finalement vous êtes docteur d'une autre manière aujourd'hui?
Oui, enfin c'est comme mon père disait toujours, on trace pas sa vie en ligne droite. Et je comprenais pas cette phrase parce que depuis l'âge de 7 ans, je voulais être médecin jusqu'à faire ma première année de médecine et me rendre compte que je n'allais pas pouvoir poursuivre. En fait, j'avais compris qu'est-ce que ça veut dire le mot trauma. Je pense que vouloir faire médecine, c'était de réparer ce traumatisme, puisque l'étymologie de trauma, c'est la blessure au corps et c'est la peau déchirée. Et donc, il a fallu faire un long détour par l'étude des arts, où je travaille aussi le corps et une forme de réparation. Et je me dis, j'ai réalisé mon rêve, mais je me suis juste trompée de discipline. Donc, je suis devenue docteur en esthétique.
M. Après avoir quitté clandestinement le Cambodge en 1976, Soko Phai s'est installé dans les têtes familiales l'idée du retour au pays.
J'ai quitté le Cambodge en 1975. J'ai vécu un an dans un camp de réfugiés. Je suis arrivée en France en 1976.
D'accord.
Et oui, il y a toujours eu ce désir du retour très très tôt, puisque mon père a porté vraiment la nostalgie du Cambodge. Je me souviens toujours, ça m'a marqué quand il nous avait dit une fois qu'il aurait donné une année de sa vie juste pour sentir la sueur en travaillant dans une rizière. Et je me dis, mais c'est complètement fou. Et maintenant, j'ai les mots pour comprendre ce qu'il a vécu, ce qu'il a porté, c'est-à-dire cette nostalgie, hein, puisque dans l'étymologie, algos veut dire douleur et nostos veut dire retour. En fait, nostalgie signifie la douleur du désir de retrouver son foyer. Et cette nostalgie, je l'ai, plus la nostalgie de mon père, mais c'est comme si je l'ai portée aussi, puisque j'ai toujours eu le désir de revenir au Cambodge. Et la première fois que j'ai remis les pieds, c'était avec mon petit frère qui était à l'époque bébé et qui n'avait pas beaucoup de, peut-être aucun souvenir du Cambodge. Personne ne savait qu'on allait débarquer. Je ne savais même pas où était ma grand-mère. Il a fallu faire des, avec le chauffeur de taxi, avec la photo de ma grand-mère, de chercher de maison en maison. Mais je savais qu'elle était dans la vieille ville. Donc on a réussi à la retrouver.
Grâce à une photo.
Grâce à une photo.
Et qu'est-ce que vous retrouvez de vous-même là-bas dans ce Cambodge ?
Je pense que ce que j'ai essayé de retrouver, c'est retisser les liens.
Renouer avec ces origines dont vous dites, avec une image tellement marquante, que vous aviez peur d'être englouti par ces origines.
Oui, mais en même temps, je dirais que la terre m'a sauvée. D'une part, quand j'ai appris dans un journal qu'il y aurait un procès de Doux, je me souviens encore, j'en pleurais dans le métro, tellement ça a été très fort. Je me suis dit, là, le retour est possible. Et donc, à la même année, en 2007, j'ai acheté une petite plantation, un bout de terre dans la campagne en coréenne, à côté de Bantisrei, et ça m'a apaisée. C'est comme si ce bout de terre m'a permis de me réconcilier avec mon histoire, qui est très lourde, et en même temps de pouvoir vivre en France et de pouvoir faire ce retour, et que ma grande liberté, c'est de pouvoir construire ce pont entre les deux pays.
J'aimerais qu'on se quitte en sol majeur avec un film qui fait partie un peu de votre cinémathèque, c'est le film Hiroshima, mon amour, qui est un film très nouvelle vague d'Alain Resnais. Et avec cette scène d'ouverture à laquelle vous êtes très attaché, où on voit le corps de ces deux amants enlacés, ensablés. Elle est comédienne française, elle est venue au Japon en étant 57, elle vient y tourner un film sur la paix, et lui est architecte japonais. Pourquoi est-ce que vous aimez ce film, Soko Phai ?
L'ouverture de ce film est extraordinaire et magnifique, à la fois dans la beauté des images, des acteurs, mais aussi la beauté de la langue de Marguerite Duras. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est quand cet acteur japonais, ce héros japonais, dit « tu n'as rien vu ». Et elle dit « mais si, j'ai vu l'hôpital, j'ai vu quatre fois le musée, mais quand on est témoin direct, c'est difficile de pouvoir partager cette expérience, alors que l'héroïne française, même si elle a été sur les lieux, c'est toujours rétroactivement, c'est toujours dans l'après-coup. Et dans l'après-coup, après un génocide, après une destruction, eh bien, il ne reste que des traces, que des vestiges, et comment on travaille avec ces traces ?» la structure des génocides, c'est le double effacement. Et donc, il m'a fallu, moi, pour ma part, d'inventer une méthodologie de la recherche que j'ai appelée l'archéologie du fantôme. C'est-à-dire chercher, trouver les traces de l'effacement des traces qui viennent montrer en creux la disparition des corps et des êtres.
Quatre fois au musée à Hiroshima, j'ai vu les gens se promener. Les gens se promènent, pensifs, à travers les photographies, les reconstitutions, faute d'autre chose. Les photographies, les reconstitutions, faute d'autre chose. Les explications, faute d'autre chose. Quatre fois au musée à Hiroshima.
Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien.
En sol majeur, @rfi.fr.
À lire Cambodge, le génocide effacé, livre collectif, donc sous votre direction, Sokofai, et celle de Pierre Bayard, c'est aux éditions Nouvelle Cécile Defaux. Et pour refermer cet en sol majeur, on a une perle, c'est un extrait du spectacle Bang Sokol, c'est une berceuse.
Oui, parce que j'ai été baignée aussi par les berceuses dans mon enfance, dans ce concert Bang Sokol qui a été joué récemment en mai à la Philharmonie de Paris. Eh bien, c'est de voir aussi qu'à travers les mots, cette berceuse pouvait aussi porter l'histoire et la mémoire que beaucoup de Cambodgiens ont vécu, notamment la perte de leur enfant durant le génocide.
Je te cherche, mon amour. Dans quel monde es-tu maintenant? Mon tout petit, mon enfant, ils t'ont arraché à moi. Tu pleures de nostalgie, éloigné de tes proches. Tu es parti loin dans un endroit paisible. Ta mère te cherche, mon petit, mais nulle part ne te trouve. Séparée de toi, je suis partie pour toujours, loin de ma famille.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. À la semaine prochaine.